Ça passait où? Oui. Où ça passait? Chez les vanités. Chez les Nordopins. Je ne m'en suis jamais aperçu. Pauvre de moi. Je voulais en faire un cardinal. Je serai pape avant de le voir évêque. Ah, j'enrage. J'y perds mon âme. J'y perds la vie. Et rien à tenter. C'est un mur, une citadelle. Une place forte, cet homme, une bête de l'apocalypse, un vampire, il me suce jusqu'au cœur. Pauvre maître Jacques, tu aurais dû rester à Châtillon. Là-bas, on t'aurait compris, on t'aurait aimé. Ah ah, la Néruise, c'était une bonne petite femme. Ah, monsieur de Paul, vous ne pouvez savoir le mal que vous m'avez fait.
Tout est prêt, messieurs. Nous pouvons appeler notre aumônier.
Monsieur le prince, mon travail est soigné. J'ai l'habitude d'accomplir scrupuleusement la tâche que me confie leur seigneurie. Prenez connaissance. Lisez, relisez. Il n'y manque aucune formule agréée par le droit le plus strict. La pièce est du plus beau style, l'orthographe parfaite. La calligraphie de même, n'ont été omis aucun accent, aucun point, aucune virgule.
Un chef-d'œuvre, monsieur le prince. Votre tabellion a trouvé son texte de points et de virgules à chaque mot. Il l'a rendu illisible, mais tout y est, et même deux fois.
Vous plaisantez, monsieur, parce que vous ignorez les secrets merveilleux de notre écriture, les lois d'un art qui nous viennent de Tiron, le secrétaire de l'illustre Tullius Cicéron, le premier orateur.
Le grand monsieur de nous affiler sans un cours d'histoire. Nous voulons seulement une donation bien en règle.
Je déclare, sur l'autorité de Tiron, et sur mon honneur de notaire du roi, qu'une fois les signatures acquises, il vous sera impossible, devant n'importe quelle juridicité légalement constituée, de faire appel d'une donation aussi savamment formulée.
Mais c'est bien notre volonté.
Dieu me préserve de reprendre ce que je veux offrir de plus près.
Monsieur de Lursac, allez donc guérir notre aumônier.
Je vous assure, monsieur le prince, que mon œuvre est digne de douze louanges. Monsieur de Lursac nous a calomniés.
À la bonne heure, monsieur. Vous défendez comme un gentilhomme l'honneur du greffe. Mais n'allez pas jusqu'au duel. Pour votre défense, vous n'auriez qu'une plume. Et monsieur de Lursac sortirait son épée.
Monsieur de Paul,
Dieu vous assiste. Je craignais que vous ne vous dérobiez.
Voyez, nous disposons de votre personne sans vous consulter. Vous ne nous en cachez pas rigueur.
Je suis prêt à rendre tous les services que vous exigez de ma génique personne. Mais monsieur de Lursac a pris un air si solennel pour m'appeler auprès de vous que la curiosité me presse de savoir de quoi il s'agit.
Monsieur de Lursac est un incorrigible plaisant. Vous allez être informé.
Pater, faites-nous grâce de tous les alentours de votre magnifique grimoire.
En quelques mots, veuillez nous en communiquer l'essentiel.
Mais, monsieur le prince, mon ouvrage est digne d'une lecture publique devant le Parlement.
Je n'en doute point. Aussi à cause de cela, je vais vous demander d'être prêt.
Par devant nous, notaire, et devant les témoins ici présents, monsieur le prince de Gondi, général des galères, et madame la princesse et Françoise de Sigy, faisons à savoir à monsieur de Paul que nous lui octroyons, sans que jamais ne puisse être fait appel de ce don par nous, que nous lui octroyons 45 000 livres de rente, que nous lui octroyons 45 000 livres de rente, représentés par un versement et par le collège des bons enfants, propriété à lui allouée par son éminence notre frère, le cardinal de Gondi, archevêque de Paris, à seule fin que M. de Paul fonde et institue une société de prêtres des missions pour l'évangélisation des campagnes. En foi de quoi, les deux parties ont cet acte signé ce jour 17 avril 1626 à Paris.
Mes félicitations, notaire. Du style de Cicéron, vous êtes porté à celui de César.
M. de Paul n'a rien compris.
J'ai fort bien compris, au contraire. Est-ce bien vrai?
Faites-nous y croire. Monsieur le prince, madame la princesse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
J'y mets une condition, cependant, monsieur de Paul, c'est que tout en vivant au collège des bons enfants, vous demeuriez par le cœur toujours attaché à notre maison.
Clause résolutoire ou clause comminatoire? Faut-il l'intérêt, madame?
Mais non, monsieur, les affaires de cœur ne se traduisent pas dans ces choses.
Madame, je serai le dernier des ingrats si un instant j'oubliais vos bienfaits.
Ayez donc l'obligeance de signer avec nous, monsieur de Paul.
mort, entre le ciel et l'enfer, l'angle des saints et l'enjeu d'une terrible lutte entre Dieu et le démon.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint resplendissant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige.
Thank you. monsieur de Paul.
Enfin, je vous tiens.
Je vous dirai tout cru votre fête. Vous êtes un homme dangereux, un Paul, un hérétique.
Par les saints anges, monsieur, je ne vous entends pas.
Vous m'entendrez, monsieur. Vous entendrez que vous êtes une bête, un fléau dans l'église de Dieu.
De quel droit venez-vous m'insulter ici chez moi?
Du droit de la vérité, monsieur. Je suis docteur en Sorbonne, le docteur Cornuau, professeur de théologie et autres arts. Je vous accuse d'empoisonner l'esprit de nos jeunes étudiants.
Expliquez-vous, docteur.
Vous me demandez des explications. Mais vos menées seraient-elles donc patentes pour tous sauf pour vous-même, hypocrite, séducteur des jeunes lévites? Vous osez tenir des conférences aux futurs prêtres. Vous leur recommandez de mépriser la science que nous leur enseignons. Et comble d'impertinence et d'incongruité, vous leur donnez le conseil de prêcher en imitant le ton des comédiens de l'hôtel de Bourgogne.
Je leur recommande en effet de ne pas jeter leur science au nez des gens comme les docteurs en Sorbonne. Et je les invite à prendre le ton naturel des acteurs de théâtre.
Mais ignorantissime prêcheur, que faites-vous de la dignité de la théologie et de la grandeur de la parole de Dieu?
Croyez-moi, monsieur, l'Évangile était le premier livre de théologie. Et notre Seigneur y parlait fort simplement.
Mais enfin, expliquez-vous. Où conduisez-vous le clergé de France avec le nouvel institut que vous prétendez fonder? Vous, un simple prêtre, un paysan.
Vers les pauvres, monsieur, vers les pauvres que vous méprisez.
Les pauvres, vous bon prêtre s'en occupe.
Allez donc leur porter vos discours.
Vous êtes un révolté, monsieur.
Oui, contre vous. Quand un prêtre attaque les pauvres, quand un prêtre les oublie, je m'indigne, monsieur, car il me semble que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'oublie dans ses membres souffrants.
Laissez-moi passer, mon bleu, je vous en proche comme une dalle. Mais passez, passez donc, j'aime autant que ce soit la base. Monsieur de Paul, c'est celui-là.
Monsieur de Paul, enfin je vous tiens, je vais pouvoir parler à votre bonnet comme je le désire depuis longtemps.
Arrêtez, marquis, arrêtez, je vous en prie. Je ne suis pas monsieur de Paul, mais un docteur en Sorbonne, le docteur Cornuau, pour vous servir.
Docteur ou pas docteur, je vous eusse étranglé si vous eussiez été monsieur de Paul.
Monseigneur, personne, sans aucun doute, n'a moins mérité votre colère que monsieur le docteur en Sorbonne que voilà. Car il n'a pas plus d'amitié pour moi que votre seigneurie. Expliquez-vous, monseigneur.
Vous êtes monsieur un factieux, un perturbateur, un trouble ménage. Ah,
bravo! Ceci corrobore mes soupçons.
Comment? Il n'est pas de quelques rangs en France qui ne se vantent de faire partie de votre confrérie des dames de la charité. La reine elle-même
n'a qu'un désir, soulager les pauvres de son royaume.
Votre sanglier, ce n'est pas une raison pour troubler notre ménage.
Ce qui prouve que vous êtes un homme dangereux, cela confirme ma thèse.
À cause de vous, la vie conjugale est devenue impossible. Plus de fêtes, plus de divertissements.
Je regrette, messieurs, que vos menus plaisirs soient troublés par l'existence des pauvres. Je leur dirai de n'être pas si exigeants, de se laisser mourir de faim ou de maladie, parce que Monseigneur a besoin de se divertir.
Et que voulez-vous que j'y passe?
Il n'a qu'à être riche, n'est-ce pas, le pauvre? Qu'il ne vienne pas nous importuner de ses plaintes. Mais, monsieur, n'avez-vous jamais pensé que si Dieu vous a donné d'être riche, c'est pour être le serviteur des pauvres?
Vous dites
ce que tout chrétien doit savoir. Allez visiter les pauvres dans leur masure. Emmenez avec vous, monsieur le docteur en Sorbonne, que voilà. Et après, revenez ici me jeter vos insultes à la face. Je vous défie d'en avoir le courage.
Monsieur, l'antichambre, le couloir, la cour, la rue, regorge, déborde de gens qui vous demandent. C'est un rassemblement de dames, d'ecclésiastiques, de mendiants, une vraie pentecôte. Et je ne suis pas l'esprit saint, moi. Je vous tire ma révérence. Je ne sais à quoi les occuper.
Mademoiselle de Marillac, venez donc en aide à tous ces pauvres gens.
Volontiers, monsieur Paul. Les plus sont m'accorder quelques instants. Vous ne le regretterez pas.
Une dame de la charité, messieurs.
Ah, monsieur, monsieur, je ne sais tout ce que je voudrais vous dire.
Je sais, ne vous inquiétez pas.
Je n'entre pas seul. Voici une petite fille qui m'a supplié de la conduire vers vous.
Avancez, sans crainte, mon enfant. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous désirez de moi.
Je m'appelle Marguerite Nadeau, une orpheline. De mon métier, je suis bachère à Suresnes, à deux pas de Paris. Et voilà ce qui m'amène. De ma vie, je voudrais faire quelque chose. Alors, j'ai appris par un missionnaire que vous vous occupiez du pauvre monde. Que même des âmes de haut rang vous venaient en aide. C'était à qui porterait aux malheureux de quoi manger et se soigner. Mais pour les laver, les penser quand ils sont malades, ça doit les dépenser un peu, ces âmes. Elles ont les mains fines. J'ai pensé que moi qui suis servante et qui n'ai pas peur de l'ouvrage, je pourrais m'employer avec elles. Les malades, ça me connaît. J'ai donné des lavements, faire des saignées, et le balai et la lessive, c'est mon affaire. Je viens pas pour être payé. Je me dis, le malade, le pauvre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a faim et qui est malheureux. Alors, me voilà avec mon paquet, si vous voulez de moi.
Mon enfant, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Voyez, messieurs, c'est elle qui vous répond. Moi, je vous ai répondu avec des mots. Elle vous répond avec son cœur.
Mais enfin, monsieur, venez qu'on se dise tout le monde une fois prévu, mais dépensez pas que j'y perds mon latin et calmez-moi.
Allez donc accueillir, messieurs, les pauvres qui assaillent mon domestique. Donnez-leur de votre amitié et un peu de votre argent. Vous ferez un bon placement.
Diantre soit du bonhomme. C'est un drôle de corps que ce monsieur de Paul. J'en parlerai chez madame de Rambouillet où j'ai l'honneur d'être reçu.
Mademoiselle de Marillac, je vous confie cette bonne fille de Suresnes. C'est le signe du ciel sur nos petits projets. Mes chers confrères, je m'excuse de commencer notre lecture spirituelle avec un peu de retard. En effet, je viens d'essuyer pour notre petite compagnie les véhéments reproches d'un bon docteur en Sorbonne. Nous sommes des ignorants, m'a-t-il affirmé. Et moi le premier, je suis un ignorant dissimulé. Admettons-le, mais oui, il faut en effet savoir beaucoup pour arriver à se convaincre qu'on ne sait rien.
Donnez-moi un écu.
Tiens, l'ordre, le diable te serre les entrailles.
Si vous n'écoutez pas, je crierai un grand plus fort.
Tais-toi, tu n'auras pas un sol.
Bon gentil, un écu.
Tiens, prends cet écu et mets-le dans ta gueule, chien de mendiant. Et qu'il la ferme.
Dieu te le rende, bon gentil. Dieu te le rende. Dieu favorise tes amours. Si elles sont bonnes, si elles sont bonnes.
Je suis contente que tu sois venue.
Et moi, je suis content d'être venu.
Alors, tu as reconnu la maison?
Ma Louise, je te reconnaîtrais même si tu étais une épine perdue dans un cuisson. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que mademoiselle Maria qui t'a envoyé à sa place visiter les pauvres. Elle n'a pas l'habitude de se faire remplacer par sa servante. C'est une vraie base de charité, elle.
La sainte femme, elle n'est pas dans son assiette. Il y a des moments comme ça où elle s'enferme chez elle. C'est comme si elle avait peur des pauvres. Alors, tu lui ai dit, j'irai bien, moi, les pauvres. Je les connais, je suis de la race. Elle est brave, hein, ta Louise?
Oui, là, c'est une bonne petite femme.
Mais t'as vu cependant que mademoiselle a dû courir trouver monsieur de Paul pour se confesser de sa petite faiblesse.
Oui, je lui donnais pour pénitence de venir te rejoindre ici.
celle où surprenait un sang, mais celle le raconta à mon maître.
La belle affaire, faudra bien qu'il la prenne.
J'en frissonne à la seule pensée.
Poltron, tu n'es qu'un poltron, tu t'amuses de moi, tu ne m'aimes pas.
Je t'aime pas, et ce qui est venu là ce soir, c'était un autre. Et qu'est-ce qui prend ta coupe noble à la sienne, c'était un autre. Et qu'est-ce qui pourrait bien t'embrasser, c'était encore un autre.
Ouais, le premier venait les ferait avec les manigans. Écoute-moi, je te déclare que si tu n'étais pas un nigaud, on n'en serait plus à la sacristie, mais au cœur. Il y a longtemps qu'on aura entendu le conjongo. Non, tu renaves, tu recules comme un homme devant un fromage, par peur de ton maître. En voilà un homme, en voilà un amoureux. Et c'est moi la femme qui ai fait tout chemin, moi qui ai quitté Châtillon pour venir à Paris, moi qui ai...
c'est moi qui ai trouvé la place, et quelle place. Chez mademoiselle de Marillac, à deux pas du collège des beaux enfants. Ça, c'est un tel coup de maître Jacques, et personne ne s'en doute.
Et après, justement, tout le monde doit le savoir maintenant. Je veux t'aimer à la fin de l'univers. Je suis une femme honnête.
Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir à parler d'une chose pareille à un homme pareil.
D'une chose pareille, d'une chose pareille. Et le mariage, il est fait pour qui?
Mais pour nous deux, ma poulette.
Mais qu'est-ce que tu attends? T'arrives à la tête en tête quand on aime. Est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on discute? On y va à plein cœur.
À plein cœur. Ta main, mon ange, que je l'embrasse. Oh, par les saints anges, que c'est bon. Que c'est bon.
Mais ventre saint gris, s'il nous voyait, attends.
Non, il n'y a personne. Recommence, ma Louise.
Jamais plus, tu n'as rien, quoi?
Quoi, mais qu'est-ce que tu as?
Tu n'es qu'une poule mouillée, une noix, une dinde.
La Louise, les poules, les oies, les dindes, c'est des femmes, ça c'est pas moi.
Homme ou femme, t'es pas un homme. T'es le dernier des libertins. Oh, par moment. Je voudrais t'arracher les yeux, tu peux lever le cœur, je m'en vais.
Oh non, non, ne fais pas ça, laisse mon petit chérubin. Écoute, je suis ni une poule, ni une oie, ni une dame.
Mais qu'est-ce que tu fais alors?
Comprends ce que tu ne peux comprendre. Tous les jours, je la lui retourne la phrase que je vais lui sortir. Une de ces phrases, ma chère. Elle part du paradis terrestre, de la côte d'Adam, et elle aboutit à notre conjungo.
Ouais, tu ferais mieux d'ouvrir ta bouche plutôt que de la tourner.
Eh bien, comprends ce que tu veux comprendre. Chaque fois que je l'ouvre ma bouche, ma langue, elle s'en mêle, je bègue, rien ne sort. Mes jambes sont de laine. Me semble l'enfant qui pense à moi des conjours et qui me dit comme ça, maître Jacques, tu es un mauvais chrétien. Ah, comprends-tu ce que je peux en avoir de mal au cœur pour toi?
Et à moi qui l'apprendrais sa voix des conjours? T'es mariée avec lui? Je n'en peux plus, moi, d'être la petite femme qu'on embrasse pour rire.
Si tu lui parlais, toi.
Moi, la femme?
Oh oui, je te récompenserai. C'est toi qui commanderas le ménage, c'est toi qui achèteras les pourpoints.
Faut-il que tu sois belle?
Faut-il que je t'aime?
Des mots.
Des choses.
Mon maître Jacques.
Ma Louise. Ma Louise de Châtillon. Tu lui parleras, hein?
Oui, oui, je lui parlerai.
Mais où cours-tu donc si vite?
À la cuisine,
préparer dîner, je ne donnerai je ne sais quoi pour remettre toujours dans mes casseroles.
Donc, dans ces casseroles, tu ferais mieux de les mettre en ménage.
Oh, pardonne-moi, mon maître.
Et de quoi? Tu m'as volé?
Oh non, non, pas de cela, non.
Tu t'es moqué de ton maître avec la Louise?
Non, c'est vous qui vous raillez de moi, frère.
Mon pauvre maître Jacques, prends donc la peine de t'expliquer.
Eh bien, voilà. Je lâche tout ce qui me brasse le cœur depuis des mois. Il y a que j'embrassais la Louise à l'instant parce que c'est une bonne femme et que ça me rappelle le Châtillon où je l'ai connu. Cela fait 5 ans. Mais si je l'ai connu, c'est votre faute puisque malgré mes conseils, on est allé là-bas. Alors, à cause de vous, elle est tombée amoureuse de moi. Et maintenant, j'ai mis le pied dans la mucette pour y passer, pour pas reculer. Que je vous aime pas aussi, ça fait la peine de vous laisser seul.
Surtout que vous n'êtes pas raisonnable du tout, vous sortez le soir sans raison, chez les bas du pied, les bas de faim. Il vous arrive à malheur.
Mais malgré tout cela, je vous dis bien franchement, la main sur le cœur, que j'aime la Louise et que je suis obligé d'épouser.
Voyons,
Si j'ai bien compris, tu as mis le pied dans la mucette et tu veux que tout le reste y passe. Toi le premier, la Louise ensuite et ton maître pour finir.
Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que j'aimais la Louise et que ça me fait après le mauvais effet.
Ah, tu m'aimes presque autant que la Louise.
Ce n'est pas que je vous aimais. C'est comme si deux chevaux me tiraient chacun de leur côté. Je suis un martyr.
Comment, la Louise, as-tu le cœur de laisser se consumer ainsi ton bon ami?
C'est moi la coupable. C'est qu'il est arrivé à Châtillon. J'ai eu l'œil dessus. Et après, il a bien fallu que je rejoigne à Paris. Donnez-moi vos congés, mademoiselle, et je retourne à Châtillon.
On pourrait peut-être leur venir en aide.
Oh, mademoiselle, c'est cela. Arrangez les choses. Moi, vous savez, j'y perds la tête. Ah non, je ne savais pas que l'amour, ça vous torturait comme ça.
Écoutez, mademoiselle, je vous donne le ménage.
Qu'y pensez-vous? Je vous propose le contraire. Que deviendriez-vous sans votre maître Jacques? Gardez-les. Ainsi, maître Jacques ne sera plus écartelé entre ses deux amours ou ses deux chevaux.
Vous me comprenez, vous, mademoiselle? J'accepte. Qu'en penses-tu, toi, la Louise?
Oui, je veux bien, moi.
Et vous ne me demandez même pas mon avis, à moi, qui pensais être débarrassé de mon bourreau.
Il vous manquerait.
Peut-être. Eh bien, mes enfants, c'est entendu. Je vous marie et vous me restez. Tu es contente, la Louise?
Oui, pour le moment. La suite dépendra de lui.
Tu es femme sensée, la Louise. Et toi, maître Jacques, cette solution te satisfait vraiment?
Oh, moi, je savais bien que vous ne pourriez pas vous passer de moi.
Entrez à la maison, préparez la cérémonie nuptiale. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
Je n'ai pas eu le temps de visiter les pauvres, mademoiselle. Mon grand bonnet m'a retenu. Donnez-moi votre panier, je vous détrousse-moi.
C'est tout au moins ce qu'il désire.
Cela concorde si peu souvent.
Ah, le bonheur, le bonheur. S'il savait que cela consiste à s'en passer pour les autres. Mais revenons à notre propos. Vous allez tenter cette épreuve. Je le veux.
Je vous obéirai.
Comme un agneau qu'on mène à la mort, ou bien comme une femme forte au milieu des périls?
Je n'ose me fier. Je me sens tout tremblant.
Mes bonnes dames, mes bons messieurs, ayez pitié d'un pauvre aveugle.
Emportez un morceau de pain.
Oh, madame, que vous êtes bonne. Du pain, j'en ai. Cet argent, j'aurais besoin pour acheter de la graisse, un tout petit peu de graisse pour mettre sur mon pain.
Attendez, mademoiselle, je reconnais notre homme. Tu es venu ce matin à l'Hôtel Dieu et tu as reçu de la monnaie.
Oh, monsieur, vous vous trompez. Je suis aveugle. Je n'avais personne pour me conduire.
Ce matin, tu boitais des deux jambes et tu étais venu quand même.
C'était mon frère, monsieur. Il me ressemble.
C'est curieux. Il avait la même cicatrice sur la joue gauche.
Et justement, lui aussi. Oh, une pauvre famille avait...
Eh bien, va demander à ton frère le morceau de pain et la pièce de monnaie qu'il a reçu ce matin.
Oh, monsieur, vous êtes méchant. Vous vous trompez, je vous jure.
Va-t'en, misérable. Tu n'as pas honte de voler ainsi la part des autres?
Vous êtes méchant. Vous êtes un lâche. Vous n'avez pas pitié des pauvres aveugles.
Par le vice ou le besoin. Le désir me suffit de partir. de leur échapper, de me laver de leur regard. C'est une tentation, mon père.
Oui.
J'ai peur de tomber.
Oui. Je l'ai éprouvé moi-même, ce mal de cœur, cette répulsion. Oui, à Marseille, lorsque j'étais aumônier des galériens, devant ces pauvres gens qui n'avaient plus face humaine et qui m'insultaient, j'ai eu la tentation de m'emparer du fouet des gardiens et de cogner sur eux et de les déchirer jusqu'au sang, jusqu'à ce qu'ils m'écoutent, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur figure d'homme. Oui, vous m'entendez, leur figure d'homme, les pauvres. J'en ai demandé pardon à Dieu.
Oh mon père, c'est cela.
Et savez-vous ce qui m'a sauvé? La pensée de Jésus. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens. Sa face ravagée m'apparaissait sur ses traces de bannière. Ah, il n'avait plus d'apparence humaine, lui. Il s'était fait homme de douleur. Devenu comme un objet devant lequel on se voile les yeux. Je ne suis pas plus fort que vous. Sans le Christ, je n'aurais rien entrepris. Mais je le vois, misérable, je le vois qui m'implore dans son regard le plus flétri. Je reste. Vous non plus, vous ne pouvez lui manquer.
Mon père, mais...
Ne vous attendrissez pas. Allez de l'avant hardiment. Le bon Dieu vous attend pour notre petit projet. Les grandes dames ne pourront pas s'occuper bien longtemps des pauvres. Elles aiment le pauvre reconnaissant, mais le révolté, elles le fuient. Nos petites servantes, comme Marguerite Nazot, n'en auront point peur. Elles le sauveront. Vous serez la mère de ces bonnes filles. Mais... je leur veux une mère vaillante.
Je ferai d'une importance.
Tentons l'épreuve. Allez chez ces pauvres gens. Vous entrerez la première et toute seule. Je vais à l'église prier pour notre petit dessein. Je vous rejoindrai.
Pendant ce temps, ils donnent de la viande à leurs chiens titres. d'atteint. Eh bien, une dame. Une grande dame chez nous. Et c'est trompé de porte. Ça fait rien, madame. Si ça vous chante de voir des gens mourir de faim, vous serez servi.
Je ne sais pas tromper de porte. C'est bien dans la famille que vous vouliez m'assouplir.
Quoi donc, madame? Mon mari, il est mort!
Mais non, il est à l'hôpital. Il se guérit. Il s'inquiétait seulement de vous. Je vous apporte du pain et des ailes.
Oh, mon Dieu, madame,
du pain,
le pain,
mon Dieu.
Excusez-moi, c'est incompris aussi. Depuis deux jours, je n'ai plus de lait. Pauvre ma
mère. Un vieux, lui. Et un pauvre roi. On laisse crever.
Oh, mais j'en ai encore. J'en ai pour tout le monde. Vous paraissez malade.
Sans doute. L'enfleur, je serai pas ici, à croupir sur la paille. Je vais aller leur chercher leur pâté. Regardez, c'est pas comme chez vous. Des lits dorés, de la paille, comme les bêtes. Ça vous amuse de voir ça, hein?
Comment?
Ouais, toute une nichée de petits marcassins avec la femelle qui crève de faim. Et dans un coin, le vieux sanglier.
Je viens dans la famille de l'ouvrier maçon Pierre Fouchon.
Mais monsieur...
Quel vous, vous?
L'un de vos amis, monsieur de Paul. Et cette dame est la servante des pauvres.
Monsieur de Paul? Oh, mais alors, on est sauvés. Quand même. Il y a tout de même un bon Dieu quelque part pour nous.
L'avez-vous reconnu, la pauvre face de Jésus?
J'ai essayé.
Eh bien, lui manquerez-vous désormais?
Père, je m'habituerai.
Observez toutes les règles. N'êtes-vous pas dans ces sentiments-là, mes filles?
Oui, mon père.
Ne vous donnez-vous pas de bon cœur à lui pour vivre dans l'obéissance de vos saintes règles?
Oui, volontiers.
Ne voulez-vous pas y vivre et y mourir?
Oui, nous le voulons.
Je prie la souveraine bonté de Dieu qu'il lui plaise de verser abondamment sur vous toutes sortes de grâces, afin qu'il puisse y accomplir parfaitement et en tout le bon plaisir de sa très sainte volonté.